Pop, popienne, pop, popien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty. Autrement dit, comme je me tue à le répéter tous les vendredis, le jour où pop se mue en pop podcast, comme un film se mue parfois en nanar, sans avoir eu forcément l'intention initiale de le devenir. Et là, je dis bingo, puisque pour la première fois depuis 20 épisodes, voilà que je ne suis pas contraint d'aller chercher des métaphores à la mort moelle-neu, puisque la métaphore vient naturellement à moi grâce au podcast que nous mettons aujourd'hui à l'honneur et qui célèbre ce genre auquel je voue une affection particulière, le nanar, donc. Il existe tellement de nanars, et depuis si longtemps que c'en est pratiquement devenu un genre. Quel genre de genre? Question d'une brûlante actualité. Existe-t-il une unanimité pour le définir? Pourquoi s'amuse-t-on à les dénicher et à se les recommander? Voilà quelques-uns des sujets qui vont vous et nous passionner aujourd'hui. Pop Podcast, c'est parti!
France Inter. Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Martin Gamara alias John Matrix et bonjour Julien Gauthier alias Barracuda.
Bonjour.
Bonjour Antoine.
Dites-moi tous les deux, John Matrix, Barracuda, on sent une très légère influence de la pop culture dans le choix de ces pseudos. Je me trompe ou bien?
Non, effectivement, quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup l'agence Tourisque. Donc au début des années 2000, quand est venu le temps de se choisir un pseudonyme, puisque c'est comme ça qu'on faisait sur Internet à l'époque, j'ai choisi Barracuda.
Ça c'est pour Julien et John Matrix, Martin?
Moi c'est pareil, John Matrix c'était le nom du personnage d'Arnold Schwarzenegger dans le film Commando, qui à l'époque était considéré par moi comme un nanar, et puis que j'ai appris à apprécier avec le temps.
Bon, pendant cette émission, je vais vous appeler Martin Gamara et Julien Gauthier, ou John Matrix et Barracuda, qu'est-ce que vous préférez?
Martin, c'est le web 3.0 maintenant.
Oui, Julien aussi, pareil.
Ok, Martin et Julien, qui que vous soyez, bienvenue dans Pop Podcast. Première question absolument incontournable, arrivez-vous à prononcer ce nom imprononçable de Pop Podcast?
Pop Podcast?
Bien, Martin.
Pop Podcast?
Bien, Julien, un peu plus lent, un peu plus posé, un peu plus... Bon, enfin bon, je le prends. Avant d'aller plus loin et de parler de nanar, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce que c'est exactement qu'un nanar, s'il vous plaît?
Ah, un nanar, nous on a une définition assez large du terme nanar. C'est un film tellement mauvais qu'il en devient fascinant et si possible drôle.
C'est bien.
À l'opposé du navet qui est mauvais mais pénible.
D'accord, vous êtes d'accord avec cette définition, j'imagine, Julien?
Oui, tout à fait. L'essence du nanar, c'est être un ratage involontaire. C'est de faire rire malgré lui ou à contre-temps, c'est-à-dire pas comme il l'espérait.
Donc sans intention d'être mauvais dès le départ, on est c'est d'accord. Est-ce qu'il peut y avoir des... Est-ce que vous faites le distinguo entre nanar et navet? Est-ce qu'il peut y avoir des nanars au navet? Alors, c'est une question gastronomique, laissez tomber. Bon, prenons un exemple au hasard, tout à fait au hasard. Le jour et la nuit de BHL en 1997. Nanar ou navet, Julien?
Alors, c'est un petit nanar, c'est-à-dire que c'est globalement un film que je trouve assez ennuyeux, mais qui a quelques fulgurances assez drôles, notamment quand il montre des révolutionnaires mexicains plus caricaturaux que nature. Mais qui a une particularité, c'est d'être transcendé par sa suite. Puisque après le film Le jour et la nuit, qui a été un échec commercial et critique, il y a eu un documentaire qui s'appelle Autopsie d'un massacre, qui essaie de raconter la réception du film. Qui est un documentaire à la gloire de Bernard-Henri Lévy et à la gloire du film, dans lequel on entend des gens expliquer que ce film a été mal compris, qu'il n'était pas si mauvais, qu'il a des qualités. Et ensuite, Bernard-Henri Lévy arrivait et dire non, pas du tout, c'est un chef-d'œuvre des siècles, c'est le meilleur film depuis Citizen Kane, il n'y a aucun défaut, rien n'a changé. Ce qui, en fait, magnifie, si vous voulez, le premier film, puisque quand on le confronte avec l'ego de son réalisateur, il devient encore plus drôle qu'il n'était.
Les nanars vous passionnent tous les deux, au point d'en avoir donc fait un podcast qui s'appelle Nanarland et qui est disponible sur toutes les plateformes. Nous allons en parler dans la suite de l'émission, mais comme nous allons parler de mauvais films, je vous propose de commencer avec de la bonne musique. Johnny, Gabriel.
Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini. Je ne veux plus voir mon image dans ces yeux. Gabriel. Tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur. Et tu chantes. C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu classes mon sang. Oui, je veux t'expliquer, tu confonds le jour et la nuit. Oui, je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chair.
Johnny Hallyday, Gabriel, et c'est sur ce son que vient de nous rejoindre Anna Arland en direct de sa Picardie natale, Charline Roux. Bonjour Charline, est-ce que votre voyage s'est passé sans encombre?
Oui, c'est pas très loin, vous savez, des studios.
Tout près, nous sommes voisins. Alors je vous présente John Matrix, alias Martin Gamara, et Barracuda, alias Julien Gauthier, les créateurs du podcast Nan Arland, un podcast que vous avez écouté attentivement.
Alors un programme aussi jouissif que problématique, il donne envie d'aller jeter un œil au d'œuvres contrariées dont il devise avec une certaine érudition, je dois dire. Vous parlez de mauvais films sympathiques, une nuance supplémentaire au nanar. Donc c'est quoi un film sympathique?
Ah, un film sympathique, non, c'est un film qui, comme j'expliquais rapidement tout à l'heure, c'est un film qui nous donne un petit peu envie de l'aimer aussi pour ses défauts, ou alors dont on a tellement envie de se moquer, y compris pour ses défauts, que ça devient une expérience positive. Je ne sais pas ce que Julien en pense.
C'est un film qui est mauvais, mais qu'on aime quand même, en fait. Souvent, en l'occurrence, parce qu'il nous fait rire sans le vouloir, mais avec lequel on a quand même une relation d'affection pour le film, pour ceux qui l'ont fait aussi, à s'intéresser après à l'histoire qu'il y a derrière, etc.
C'est-à-dire que vous avez déjà eu affaire à des nanars antipathiques?
Ah oui, on en a quelques-uns quand même.
D'accord.
C'est-à-dire des nanars qui revendiquaient déjà, dès le départ, le...
Non, plutôt des films qui sont mauvais, mais qui ont été faits par des gens particulièrement antipathiques, en fait. Des escrocs, des gens peu recommandables qui se sont un jour lancés dans le cinéma parce qu'ils avaient probablement un ego particulièrement boursouflé, et qui se sont plantés. Donc nous, ça nous fait marrer, mais après, c'est pas forcément des films sympathiques, mais c'est des mauvais films.
Vous avez un exemple en tête, en dehors de celui qu'on évoquait tout à l'heure?
On peut parler par exemple de films de ninja qui ont été faits dans les années 80 à Hong Kong, qui sont des films tous plus mauvais et grotesques les uns que les autres, avec des scènes d'action complètement ratées, et qui ont été faits par des gens en fait qui ne payaient pas leurs acteurs au prix qu'ils devaient, et qui surtout essayaient de faire passer des films pour ceux qu'ils n'étaient pas. C'est-à-dire qu'ils vous vendaient un film de ninja avec une grande star à l'affiche, et en fait ce que vous aviez à la fin, c'était un vieux polar de Hong Kong qu'ils avaient récupéré, on ne sait pas s'ils avaient trop les droits, dans lequel ils ont ajouté des scènes avec d'autres acteurs. Et ils vous vendent ça en Occident avec des acteurs occidentaux pour faire croire que c'est une grande production.
Des films suédois.
C'est exactement ça, oui, c'est des films suédois.
Ah oui, ça s'appelle de la malfaçon aussi. Alors, toutes les deux semaines, les tauliers de l'équipe de nanarland.com se réunissent pour évoquer trois films tellement ratés qu'ils en deviennent hilarants ou fascinants. Voilà, ça c'est le pitch de départ. D'où vient, pour tous les deux, Martin, Julien, ce goût prononcé pour la foirade?
En fait, Martin, à la base, c'est quand même une passion pour le cinéma de manière générale. Ouais. Une passion pour le cinéma sous toutes ses formes, du grand cinéma. J'allais dire qu'on voit la cinémathèque, mais maintenant, à la cinémathèque, on voit tous les cinémas. Mais bref, du cinéma le plus classique, en passant par le cinéma bis. Et puis, je pense que c'est cette passion pour le cinéma un peu tout-terrain qui nous a conduit à aller explorer aussi ces choses étranges qu'on trouvait dans les vidéoclubs dans les années 90. Avec des jaquettes souvent très prometteuses qui étaient parfois très décevantes ou
très
parfois
aguichantes. Très aguichantes.
Ce qui est absolument hallucinant quand on vous suit, c'est de réaliser le nombre impressionnant de films de ce genre. On a l'impression que Nanarland, c'est un territoire sans frontières. C'est un puits sans fond.
Oui, complètement, en effet, puisque en fait, le concept du nanar, qui est un film raté qui devient drôle, ça couvre tous les genres du cinéma, ça couvre tous les pays, ça couvre toutes les époques. Donc, on va regarder des films français, des bidasseries des années 70, bien connus, mais on va aussi aller regarder des films obscurs, des espèces de pensums intellectuels, là aussi français, qui ont pu sortir plus récemment. On peut aller regarder des films, je parlais de films hongkongais tout à l'heure, on peut regarder des films indiens, on peut regarder des films philippins, Des films américains, évidemment, des films de catcheurs mexicains, qui est un sous-genre en soi, qui a fait des dizaines et des dizaines de films dans les années 60, 70, 80. Donc c'est en fait un... Enfin, pour moi, en tout cas, à titre personnel, ça a été une porte d'entrée, en fait, vers la cinéphilie. C'est-à-dire que, en allant chercher des films pour leur qualité involontaire, je me suis retrouvé à découvrir le cinéma indien, le cinéma mexicain, avec des yeux que j'aurais jamais eu autrement.
Et vous qui êtes très très amateur de nanar, quel effet, qui en consommez à haute dose, j'imagine, quel effet ça vous fait quand vous tombez sur un bon film?
Ben, c'est une bonne surprise, en fait, parce que on va rarement, ça nous arrive, mais on va rarement chercher le nanar, en fait. C'est-à-dire que j'aime bien consommer des films de série B, des trucs de vidéoclub, des films d'action américains faits avec deux Francis Sous, ce genre de choses. Et puis, effectivement, souvent, on tombe sur un nanar, et puis des fois, on tombe sur un vrai bon film, en fait.
Surprise. Ninja, zombie, Chuck Norris, requin, monstre en caoutchouc, mannequin en mousse, aucun sujet lié au mauvais film rigolo ne sera épargné, prévenez-vous. Chuck Norris est omniprésent dans la pop culture, est-ce que c'est grâce à ses nanars?
C'est pas grâce à ses bons films.
Ah, c'est intéressant parce que...
C'est une réponse par défaut.
C'est intéressant parce que Chuck Norris s'est taillé une place incontournable dans la pop culture, quand même par ses films. Mais c'est vrai qu'il est devenu un mème d'Internet par son personnage hors norme et complètement extravagant et qui dépasse les limites du cinéma. Et nous, c'est un personnage qu'on aime bien parce qu'on trouve que c'est une bonne porte d'entrée vers le nanar. C'est pratiquement la face respectable du nanar, en fait, que tout le monde connaît un petit peu, notamment grâce à Internet, maintenant.
Il est conscient de devoir une partie de sa popularité au nanar, ou bien, si vous lui dites, il vous met un bon pain dans la gueule?
Je prendrai peut-être pas le risque.
Pas tout de suite.
Mais c'est vrai que il est intéressant parce que ça illustre un aspect du nanar qui est le côté de la patine du temps, en fait. C'est-à-dire un film, quand il sort, qui peut être apprécié au premier degré comme étant un film d'action, voilà, qui remplit son contrat. Et puis qui, quelques années plus tard, une fois que la culture finalement a pris un peu de recul, apparaît assez grotesque et ridicule. Et le cas de Chuck Norris est assez éclairant là-dessus, puisqu'il a fait des films de guerre du Vietnam qui à l'époque étaient très riganiens, enfin un peu voilà, un peu bourrin, très pour un public américain qui voulait un peu prendre sa revanche. Et quand vous regardez ça, mais même 10 ans plus tard, dans les années 90 déjà, c'était devenu ridicule. Ouais. Enfin.
Y a-t-il, hors Chuck Norris, des héros récurrents dans l'univers chatoyant du nanar, des égéries qui vous mettent tout de suite en alerte sur la qualité du film?
Ah oui,
que ce soit des réalisateurs ou des comédiens, bien sûr.
Oh oui. Alors il y en a des très connus. Il y en a un très connu, c'est Steven Seagal. En général, quand son nom apparaît sur une jaquette, on sait qu'on peut se frotter les mains. Après, il y en a d'autres aussi qui ont eu leur heure de gloire à un moment donné, puis qui sont devenus de moins en moins connus. Ou plutôt qui sont devenus de plus en plus connus, mais pour des mauvaises raisons, des Nicolas Cage ou des gens comme ça, par exemple. Après, il y a un certain nombre d'acteurs et de réalisateurs qui sont peut-être pas très connus du grand public, mais que nous, on connaît très bien, et en général, dès qu'on voit leur nom quelque part, on fonce.
Mais Nicolas Cage a un statut très particulier, parce qu'effectivement, il a tourné de vrais nanars, mais il est capable de revenir avec des choses assez exceptionnelles. C'est-à-dire, un nanar ne tue pas une carrière, nécessairement.
Alors Nicolas Cage, je pense que c'est un cas un petit peu à part, parce qu'il a été, un peu comme Chuck Norris quelque part, il a été un peu sauvé par la nostalgie aussi, je pense. Et puis par son personnage aussi, complètement hors norme et assez extraordinaire, qui lui a acheté une certaine cote de sympathie.
Nous sommes en train de parler avec Julien et Martin, les deux têtes de gondole de ce podcast Nanarland, qui est mis à l'honneur cette semaine dans Pop Podcast. Et comme nous parlons d'audio, intéressons-nous à une autre de mes passions, le doublage. Une passion que nous partageons, si j'en crois votre critique du film Les Exploits Amoureux des Trois Mousquetaires, un film érotique allemand bien méconnu de tous.
Réécoutons encore un petit peu de ce travail d'orfèvre en pensant au doubleur inconnu qui nous a béni de cette version.
Salut, tu me remets, gars? Carmen, la rabouine.
Je n'ai pas oublié que c'est toi qui as détartré mon chinois.
Pardon. Tu sais que ça me donne du baume au bâton de savoir que tu ne m'as pas oublié. Ça m'aurait chagriné. Depuis que tu as quitté ton vieux, bonnie-moi un peu ce que t'as maquillé. Est-ce que tu t'es levé beaucoup de gisquettes?
De la lubiche à la blèche, j'en ai vu de toutes les couleurs.
Magnifique. D'abord, précisez-nous qui est cette voix féminine qui introduit, si je puis dire, cette séquence.
C'est Mathilde, une autre des animatrices du podcast.
Très bien. Les exploits amoureux des Trois Mousquetaires. Ça se trouve où, ça?
Ça se trouve en Blu-ray, édition allemande.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a des films relativement corrects qui se transforment en nanars juste à cause de la qualité du doublage? C'est arrivé?
Oui, oui, oui. Il y en a quelques-uns qui sont où le doublage les transforme complètement.
D'accord.
Celui-là, on est un exemple puisque à la base, bon, c'est un film érotique allemand qui est pas génial, mais qui est tout à fait classique en allemand comme en anglais, sauf qu'en français, effectivement, ils ont fait un doublage en louche-bème, complètement improbable, qui donne un autre film en fait.
Oui, c'est ça.
Nanarland, c'est la déclinaison podcast du site nanarland.com qui, depuis 2001, met en valeur les films les plus ratés de l'histoire du cinéma. À quel moment avez-vous eu l'idée de le décliner en son, alors que c'est avant tout de l'image?
Alors, en fait, ce qui est intéressant avec Nanarland, c'est que c'est un projet... C'est un site web qui s'est lancé un peu au début d'Internet, lancé par des passionnés dont nous ne sommes pas, même si nous avons rejoint l'équipe très rapidement. Mmh. Et en fait, avec Nanarland, comme on est une bande de petits curieux, à la fois sur les sujets dont on parle et sur les médias qu'on exploite, on s'est toujours lancé dans plein d'aventures. De la vidéo, on a eu la chance de faire des émissions avec Allociné, des livres, des éditions DVD aussi, des documentaires.
Des nuits spéciales.
Et des nuits spéciales, des nuits très spéciales. et donc le podcast, ça semblait une suite logique. Et comme il y a une dimension sonore très forte dans les nanars, on en parlait avec le doublage, ça nous semblait hyper drôle et intéressant d'utiliser ce média pour mettre en avant des beaux extraits sonores.
Et ça veut dire que quoi, un film raté en images, les encore plus en audio, ou bien les deux s'équilibrent?
Ça dépend. En fait, ça dépend des cas. C'est vrai que parfois, on se retrouve à expliquer ce qu'on voit à l'image. Et je trouve que ça ajoute aussi une dimension assez, assez sympathique, même presque fantasmatique, de dire regardez ce qu'il y a là-dedans. D'ailleurs, au tout début du site, on ne pouvait pas montrer d'extrait vidéo. Enfin, les connexions Internet ne le permettaient pas. Donc on écrivait, enfin on l'écrit toujours, des longues chroniques où finalement on faisait un petit peu rêver nos lecteurs de ce qu'il y avait dans ces nanars dont on parlait. Et du coup, on était tous là à essayer, à rêver de trouver ce nanar-là dans un déstockage de VHS.
Les podcasts ciné sont aujourd'hui légion. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Pour vous, en tout cas, et pour Nanarland.
Je pense que c'est une bonne nouvelle en général, puisque le podcast, c'est un média qui est formidable pour son côté démocratique. N'importe qui peut lancer un podcast, c'est relativement peu coûteux à faire, les outils et le matériel sont tout à fait abordables. Après, nous, c'est vrai qu'on a un angle d'approche qui a un peu original, qui est un peu différent. Donc, de toute façon, je pense pas qu'il y ait réellement de concurrence entre les podcasts. Plus il y en a, plus ça va attirer un public qui va passer d'un podcast à l'autre, découvrir de plus en plus. Et puis, en plus, sur le créneau du mauvais film, on n'est pas très nombreux.
C'est-à-dire que vous, en plus, avec votre créneau, vous avez un avantage qui est que vous n'avez pas le redoutable Twitter cinéphile sur le dos.
Ah, ça, c'est une bonne question.
Enfin
Toutes les questions étaient bonnes jusqu'à présent. Non, effectivement, c'est un vrai sujet. On parle de films, souvent, qui peuvent être extrêmement dérangeants, en vrai. Et quand on disait que c'était des films sympathiques, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parfois, on parle de films où il y a des choses dedans qui sont très choquantes. Qui font rire par leur exagération et par leur jusqu'au boutisme et par leur peur de leur non peur du ridicule,
leur radicalité.
Mais on fait toujours très très attention à bien recontextualiser. Et il y a probablement des films qu'on a passé ou dont on a parlé en rigolant il y a quelques années et maintenant on se rend compte que peut-être c'est plus tout à fait adapté d'en rire, et c'est vrai que les réseaux sociaux comme Twitter permettent d'en prendre conscience.
Nous sommes en train de parler avec Julien Gauthier alias John Matrix. Non, pardon, Julien Gauthier c'est Barracuda. Oh messieurs, pardonnez-moi, avec les masques, je ne sais plus qui est Martin Gamara alias John Matrix. Et nous parlons de Nanarland, ce podcast disponible sur toutes les plateformes, avec un nouvel épisode à découvrir toutes les deux semaines. Nous allons continuer à en parler dans quelques instants, et pour l'instant, John Matrix, Barracuda, ici nous avons un jingle qui devrait vous séduire. Écoutez.
Le podcast.
Le podcast. Fourni par l'équipe de 2 heures de perdu.
Très beau jingle.
C'est pour annoncer la chronique Popcast de Charline Roux, la chronique qui parle de podcast.
On débute avec un podcast nommé À coup de pourquoi, une série envisagée par sa créatrice Magali Rochereau comme une banque de témoignages beaux et forts qu'elle-même aurait aimé écouter pendant sa traversée de l'enfer. Magali est une survivante du cancer.
Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leur choc, leur peur, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais.
Des survivants se confient au micro de Magali Rochereau et parmi eux, Suzy Morgenstern, l'autrice jeunesse aux éternelles lunettes en cœur. Fin 2016, elle est en France, le salon de la littérature jeunesse de Montreuil bat son plein et Suzy doit assurer de multiples promos, elle doit recevoir la Légion d'honneur, toute sa famille est là. Elle choisit donc de taire la douleur qui l'assaille à ce moment-là pour ne pas gâcher la fête.
À la grande librairie ce soir, j'ai failli mourir sur le plateau tellement j'ai eu mal et... Le lendemain, j'ai eu la Légion d'honneur à Montreuil. Et le lendemain, ma famille est partie et j'ai dit à ma fille, ça y est, tu peux appeler les secours. J'ai adoré, il y avait tout un coup, ici, dans cette pièce, il y avait 15 hommes qui sont venus m'entourer, prendre le pouls. C'est beaucoup d'attention et ils étaient sympas et puis ils m'ont mis dans leur camionnette et ça fait pimpant, pimpant à travers Paris. Et j'ai vu Paris passer, je trouvais que c'était un tourisme extra.
Vous n'avez pas eu peur?
J'ai pas eu peur, j'avais moins mal parce qu'ils m'ont bourré d'aspirine et je suis arrivée à l'hôpital Cochin et j'étais aussi émerveillée et ça c'est la clé de toute ma maladie. J'ai eu le cancer rose, la maladie rose, je trouvais que tout était merveilleux.
Suzy a subi un cancer des ovaires et elle en a fait une fête. C'est l'un des multiples témoignages forts et pour certains lumineux, ici, que vous pourrez retrouver dans À coup de pourquoi, c'est dispo sur toutes les applis.
Et on continue avec une fiction bien azimutée.
Une fiction originale pagaille écrite par Adrien Giraud et dont le titre est France Espace. Enfin, pardon.
La France Espace.
C'était l'année 2112.
L'année où tout a basculé.
L'humanité connaissait sa plus longue période de paix.
Cela va-t-il durer ?
La conquête spatiale était en pause depuis longtemps. Mais des scientifiques découvrirent... la méga-vitesse.
Une découverte qui va tout changer.
Et oui, cocorico !
Car c'est une découverte française.
On allait pouvoir voyager dans l'espace comme on prenait le train entre Paris et Lyon.
Cher voyageur, ce vaisseau est à destination du système Proxima. Tous les tickets doivent être compostés et les cartes de réduction validées.
Chérie, tu as pris mon passe Galiléo ?
Mais oui, il est dans ton sac.
Ok, ok, c'est bon, on y va.
Pardon.
Cher voyageur, dû à la présence d'un nid de goélands sur le pare-brise de la fusée, notre vol aura 45 minutes de retard.
Oh non !
Nous vous remercions pour votre compréhension.
C'est la troisième fois ce mois-ci, j'en peux plus.
Le président de la République française décide de coloniser l'espace afin de faire remonter sa cote de popularité et renouveler son mandat. Il en profite pour vendre des produits du terroir qui ont un succès fou à travers l'univers, et notamment l'andouillette. Mais évidemment, tout va se compliquer et l'équilibre intergalactique va sacrément tanguer, toute ressemblance, etc., etc. Pour connaître la suite, rendez-vous sur radioparleur.net.
Et j'ouvre des guillemets pour le podcast qui suit. Il y a un passé qui ne passe pas et qui n'a pas été raconté. Laissez-nous regarder en arrière, laissez-nous nous approprier notre mémoire.
Ce sont les mots de Safia Kessas, journaliste belge dont les parents ont quitté l'Algérie. À chaque fois qu'elle leur a demandé pourquoi, elle s'est entendue répondre la même chose. On est parti, c'est tout. Des parents ayant donné pour consigne à leurs enfants, on ne parle pas de soi, on reste discret, on n'est pas chez nous.
L'histoire de ma famille, je l'ai toujours portée. Elle est imprimée sur ma carte d'identité. Safia, Safia Kessas. C'est mon nom et c'est aussi celui d'une autre. Safia Kessas est morte durant la guerre d'indépendance algérienne. C'était la sœur de mon père, sa grande sœur, ma tante.
L'Algérie de demain, telle qu'elle sera décidée par l'autodétermination, peut être faite ou bien avec la France, ou bien contre la France.
Que voulait mon père en me donnant ce prénom ? Toute mon enfance, il me répétait, elle a été tuée par les Français. Elle a bravé le couvre-feu, ils l'ont tué.
Nous ne nous acharnerions certainement pas à vouloir rester auprès de gens qui nous rejetteraient, qui ont bouffé dans une entreprise sans issue et sans espoir.
Je devais vivre avec cette figure héroïque que je sentais toujours dans mon dos comme si elle me portait. Chaque fois que j'ai voulu en savoir plus, je me heurtais au même discours. Elle est morte et c'est tout.
Qui était-elle? Comment est-ce arrivé? Pourquoi, à partir de ce petit fragment d'histoire familiale et ses questions, Safia Kessa s'est partie sur les traces de cette autre Safia? L'histoire familiale et l'histoire tout court, en tout cas telle qu'elle est racontée, se confrontent, voire s'affrontent. L'histoire de la guerre d'indépendance algérienne et celle de la colonisation sont loin d'avoir révélé tous leurs secrets. Ça s'appelle Au nom de Safia, par Safia Kessa, et c'est réalisé par Quentin Bresson, et c'est absolument remarquable. C'est un podcast Binge Audio.
Merci Charline. John Matrix, Barracuda, on retourne en absurdie après un détour par l'univers de Philippe Catherine. C'est Stone avec toi, Philippe Catherine, qui fait des bons films et de la bonne musique.
J'aime être Stone avec toi, j'aime être Stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone avec toi. J'aime être Stone. Imagine l'homme que les femmes poursuivent dans les rues, réclamant la vite et le cul. Mais rien de plus.
Tu m'as vu?
Nu.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Messieurs, dames, je vous demande de baisser les yeux et de fermer vos gueules. J'ai de gros problèmes relationnels et un flingue, alors. Si vous avez envie de vivre, ne nous regardez pas.
Papa.
Oui, ma chérie.
Je t'emmerde.
Eh bien, au moins, tu es cohérent. Seulement tu es, tu resteras une connasse.
Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, l'héroïne.
Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
Voilà, c'est ce que vous venez d'entendre, ça vient de Nanarland, le podcast que nous mettons à l'honneur cette semaine dans Popo Podcast, avec deux de ses têtes de gondole, Julien Gauthier, alias Barracuda, et Martin Gamara.
C'est ça.
Hein, je me suis pas gouré, là.
Vous aimez quand un plan se déroule sans encombre ou...
Alias John Matrix. Alors, je sais pas si vous le savez, messieurs, mais je vais bientôt présenter les Césars, hein, une cérémonie dans laquelle on va essayer de mettre en lumière le meilleur du cinéma français. Vous, si je comprends bien, vous faites exactement l'opposé.
Oui, c'est tout à fait ça, effectivement. Et parfois, d'ailleurs, bizarrement, les mêmes personnes peuvent se retrouver dans les deux cérémonies.
C'est sûr.
Donc, la folle jeunesse de Francis Huster ou de Vincent Lindon, par exemple, qui ont joué dans quelques films un peu, les dépoleurs, comme Le Faucon, où ils jouent tous les deux, d'ailleurs.
Un vrai film,
oui, oui. Qui est un film qu'on aime beaucoup ici.
Antoine aussi.
Moi aussi, une certaine passion.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des retours des gens impliqués dans des films que vous avez disséqués?
Oh oui. Oui.
Ça se passe comment?
Ça se passe en général, ça se passe plutôt bien. Le meilleur exemple, c'est Jean-Marie Pallardy, qui a réalisé des films que je pense nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Enfin, vos auditeurs, enfin vous nous les prêtez là,
oui. Donc,
les approprier un petit peu, comme Whitefire ou L'arrière-train sifflera trois fois, des choses comme ça.
Le Ricain, le Cocaïne, il en avait fait quelques-uns.
Et on l'a. Au début, il était extrêmement peu content d'être présent sur Nanarland et il nous l'a fait savoir dans des termes assez crus. Et au fil du temps, en fait, il s'est rendu compte que, en fait, on faisait beaucoup pour sa popularité. Mm-hmm. Et ça a été même jusqu'au point où il a eu droit à sa standing ovation déchaînée à la nuit Nanarland au Grand Rex. Mm-hmm.
Vous avez pensé d'ailleurs à créer les Césars du Nanar ou les Oscars du Nanar, ce que les Américains appellent les Razzies, c'est ça?
L'idée nous a traversé l'esprit. Après, en fait, des nanars, il n'en sort pas suffisamment chaque année pour, à mon sens, hein, réellement faire une cérémonie. D'abord parce que voilà, il n'y a pas forcément assez de films, et puis en plus parce que beaucoup de nanars le deviennent avec le recul. Enfin, je disais tout à l'heure, il y a la patine du temps qui est importante. Donc, voilà, c'est un peu difficile.
Est-ce qu'il y a un pays, un continent qui est plus productif que les autres en matière de nanars?
Je ne pense pas. Je pense qu'on en trouve vraiment partout. En France, on a une industrie qui est tout à fait vivace. Hein. On en a cité quelques-uns, mais il y en a d'autres, effectivement. Hein. Que ce soit dans la comédie, dans le polar. On a beaucoup fait dans le film fantastique complètement raté. À une époque, la France a voulu se lancer dans le film de genre avec beaucoup de bonne volonté. Et malheureusement, assez peu de réussite. Le Pacte des Loups, en fait, a été un énorme carton. Beaucoup de films ont voulu se mettre un peu dans la suite et souvent n'ont pas trop réussi. Après, aux États-Unis, l'industrie est telle que vous avez des films de vidéoclub à ne plus savoir quoi en faire, qui sont dans tous les genres existants. Et puis, même ailleurs en Europe, hein, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas une grosse industrie, arrivent à produire des nanars. Vous avez des films de karaté allemands complètement risibles, ou des films de kung-fu irlandais aussi, qui se plantent complètement. Puis après, vous avez des choses plus exotiques. Donc l'industrie indienne, qui est aussi une très grosse industrie, forcément, dans le tas, il y a des nanars. Les Philippines, à une époque, faisaient beaucoup de coproductions américaines, de films d'action bas du front, complètement ratés. Donc là, il y en a eu beaucoup. Hong Kong, à nouveau, une grande industrie. Donc du coup, beaucoup de mauvais films. Non, c'est vraiment très international, il n'y a pas de...
Est-ce qu'il y a par exemple un film français qui pour vous est un nanar incontournable?
Il y en a plein.
Mais c'est vrai que...
Si vous avez un titre comme ça qui vient spontanément.
Un titre qui vient spontanément, ça serait...
Dans les récents, je me permets, dans les récents, il y avait Alien Crystal Palace.
Dariel Dombal.
Qui avait fortement retenu notre attention. Après... on jette la pierre à personne. Il y a eu un projet qui s'est peut-être pas passé comme c'était prévu, ou peut-être ça s'est passé comme c'est prévu.
Je crois qu'elle en était très contente.
Et le but du jeu, c'était peut-être de faire quelque chose de très étonnant. Nous, ça nous a beaucoup étonnés.
Julien.
Un autre bien connu, c'est Vercingétorix.
Christophe Lambert.
Évidemment.
Je crois en 2001, et effectivement, qui est un. Jacques Dorfman est l'exemple parfait du ratage. C'est-à-dire, un film qui voulait être le Braveheart français et qui est ridicule d'un bout à l'autre.
Oui, avec un problème de postiche en plus.
Oui.
Un problème de postiche un peu baladeur.
De colle à postiche. Ouais.
C'est ça.
Qui dit maître de cérémonie, pardonnez-moi, je reviens un instant au César, dit amoureux des dialogues. Est-ce que par hasard, vous connaissez le film Maîtresse particulière?
Oui, nous le connaissons bien.
Parce que nous l'adorons pour ces dialogues, figurez-vous.
Vous entendez qui est qui? Parce que
J'aimerais vous faire écouter un extrait, que dis-je, un hit de cette émission, pour savoir si potentiellement c'est un nanar ou non. Alors oui, précisons, comme c'est l'heure du goûter, et après des menaces d'expulsion de Radio France, nous avons décidé de biper en partie l'extrait concerné.
En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu s*** ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
Je ne sais pas si les bips étaient très judicieux, c'est la Fontanus. Alors, nanar, pas nanar?
C'est un nanar, c'est sûr. Alors, c'est particulier les films pornographiques, puisque ils n'ont pas forcément le. Enfin, ils ont un but un peu différent d'autres films par rapport aux spectateurs, mais celui-là, il a effectivement des répliques et des dialogues qui font que. Voilà, parce que c'est qu'une petite partie de la scène.
C'est assez percutant ce qu'on a entendu.
Ah oui, c'est le cas de le dire.
J'imagine qu'il y a pire comme dialogue. Non?
Je ne sais pas.
On parlait de l'aspect sonore, il y a le doublage, mais il y a aussi simplement le fait d'avoir des répliques complètement débiles.
Ouais.
C'est Chuck Norris lançant à la tête du chef de la CIA, je mets les pieds où je veux. Et c'est souvent dans la
dans
gueule.
Dans la gueule, ouais. Les films...
C'est mythique, ça.
C'est mythique.
Les films sont généralement mauvais, mais les titres sont parfois pires. Quel est le meilleur ou le pire, c'est selon, que vous avez vu passer?
Alors, bah, oui, je veux dire que dans le domaine.
Se replonge dans ses notes.
Non, mais dans le domaine des films porno, c'est quand même souvent là où il y a les titres les plus amusants. Et qui sont pas forcément.
Oui, parce que c'est des détournements de titres.
Après, il y a eu dans le genre des mauvais titres, il y avait une vague des films de kung-fu francisés dans les années 70. Avec des, alors c'est extrêmement raciste. Je me sens un peu mal à l'aise de prononcer ça à l'antenne, mais il y avait des choses terribles comme autant on emporte le nunchaku, ou il faut battre le chinois tant qu'il est chaud, ou il y en a real ball, enfin ce genre de choses quoi.
Ah, il y en a real ball, moi j'aime bien. Et vous, Julien?
Non, mais il y a un titre que j'aime bien qui s'appelle Le pharmacien de garde, sous-titré Ce qu'il fait la nuit n'est pas remboursé par la Sécu, qui est un film de Jean Weber avec Vincent Pérez et Guillaume Depardieu, qui se voudrait être le Seven français en fait, et dont le titre est d'autant plus absurde que s'il y a bien un pharmacien dans l'histoire, il n'est pas du tout pharmacien de garde en fait. J'ai jamais compris trop pourquoi le film s'appelle comme ça.
Et alors, la notion du Seven à la française.
Oui, et puis alors un cas très à part, est-ce que par exemple les films de Mocky sont considérés par vous comme des nanars?
Non, parce que c'est pas involontaire à mon sens. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un comme Jean-Pierre Mocky sait exactement quel film il est en train de faire et quel résultat il va obtenir. Donc, moi, je ne le classerai pas dans les réalisateurs de nanars.
Non, moi non plus. Ça fait partie de ces réalisateurs qui ont un style particulier jusqu'au boutiste qui peuvent parfois, qui peut un peu aller aux limites, mais bon, après, c'est subjectif. Ah,
les transgressés, même.
Oui, les transgressés, dépend,
mais... Non, mais on a l'impression aussi que dans la conception du nanar, c'est qu'il faut qu'il y ait un peu de boursouflure.
Oui. En fait, il faut... Alors, quand même, le supplément d'âme qu'on aime bien, c'est la malhonnêteté. Enfin, quand derrière, il y a une espèce de volonté d'en mettre plein la vue du client, en général, c'est là où on rigole le plus.
Aujourd'hui, Nanarland, c'est 46 épisodes pour environ 1 million d'écoutes au total. Ça fait quoi de savoir qu'autant de gens partagent cet amour du cinéma avec vous?
C'est flatteur, forcément. On a toujours été en plus des amateurs, c'est-à-dire qu'on ça n'a jamais été un business. Donc c'est un plaisir de voir que quelque chose qui est pour nous une passion, on peut arriver à intéresser autant de gens finalement et à fédérer autant de gens en la partageant.
Ouais. Et est-ce qu'il arrive que votre fanbase vous envoie des suggestions, des films qui auraient échappé à votre sagacité et...
Alors, on a une fanbase, on les adore, mais il y a un jour, ils nous ont beaucoup déçus. On avait fait un sondage pour savoir de quoi pourrait retourner le prochain épisode. On avait mis le choix entre, je sais plus, histoire, sexe et un troisième sujet dont je ne me rappelle plus. Et figurez-vous qu'ils n'ont pas choisi sexe. Et ce jour-là, on s'est demandé s'il n'y avait pas un problème avec notre fanbase.
Histoire. On a choisi histoire.
Ils ont choisi histoire. Ouais. Et je crois qu'on n'a pas de Vercingétorix.
Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de la patine du temps pour accéder au statut de nanar. Mais est-ce pour cette unique raison qu'il y a si peu de films récents que vous étudiez? Ou est-ce qu'il y a aussi peut-être... je ne vais pas dire pas peur du backlash, mais peut-être que c'est plus compliqué.
Non. On a la chance d'être des amateurs qui font ça pour s'amuser, donc on n'a vraiment pas peur du backlash. Non, il y a un vrai truc avec la patine du temps. Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films qu'on a même vus, nous, à l'époque, à leur sortie, qui nous ont déjà un peu fait rire. Et puis finalement, en y revenant maintenant, avec 20 ans plus tard, on se dit oui, vraiment, c'est drôle. Après, il y en a qui sortent et c'est des classiques instantanés du nanar. Hein. Ça arrive aussi. On a quelques réalisateurs chouchou comme ça. Je pense à un Neil Breen, par exemple, qui est un monsieur qui est plutôt agent immobilier que réalisateur. Et à chaque fois qu'il sort un film, c'est une masterclass du nanar.
On a tous en tête, évidemment, le premier chef-d'œuvre qu'on a vu en salle, au cinéma. Est-ce que vous vous souvenez, tous les deux, de la première bouse?
Moi, je me souviens du premier nanar que j'ai vu. C'est un film italien qui s'appelle L'Homme Puma, qui est en fait une version italienne de Superman, mais faite avec des effets spéciaux qui étaient vraiment pas du tout au niveau. Ou les scènes où c'est l'homme puma mais il vole, faut pas chercher à comprendre. Et les scènes où il vole, en fait, on voit un pauvre acteur attaché à un harnais, battant des bras et des jambes parce qu'il n'arrive pas à se tenir en fait à l'horizontale, avec derrière une espèce de vidéo d'une ville qui passe, mais qui ne correspond pas du tout au mouvement qu'il est en train de faire en fait. Et cet instant où en fait vous aviez jusque-là un film voilà normal, mais qui bascule d'un seul coup dans le nanar total le temps d'une scène, parce qu'en plus la musique s'y met, il y a vraiment la totale. C'est vraiment un moment un peu magique, je dois dire.
C'est ce que je disais, c'est ça le problème. Après, on a envie de regarder ces films. Moi, j'ai envie de voir l'homme Puma maintenant.
Alors, regardez l'homme Puma. Et vous, Martin, peut-être un titre.
Le premier nanar qui m'avait fait rigoler, c'était Commando, mais je me suis rendu compte avec le temps que ça n'en était pas vraiment un. Mais mon premier choc de nanar, ça a été vraiment les films de ninja dont Julien parlait tout à l'heure, parce que entre le doublage incroyable, le fait de se dire, mais c'est bizarre parce qu'ils ont peur d'être dans le même film et ils se parlent uniquement par téléphone. Ça, c'était un choc, un joli choc.
Martin Gamara, Julien Gauthier, dans la suite de l'émission, je vais vous proposer une rencontre avec un héros qui ne porte pas de cap, mais un slip Mulburn, c'est Cosmo Flash. Ça, c'est du teasing, non? Bon, rencontre dans 2 minutes, juste après Is There Someone Else, et c'est un morceau de circonstance en ce vendredi, car il est signé de l'artiste canadien The Weeknd. Someone else, The Weeknd. Eh oui, il n'y a toujours pas de E entre le K et le N, donc The Weeknd. Donc, vous écoutez Pop Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Mais c'est Louis, bien sûr, Cosmo Flash.
Bonjour Antoine.
Qui se promène dans les couloirs de la maison de la radio en slip. Bonjour Cosmo.
Bonjour tout le monde.
Mais c'est l'homme Puma.
Bonjour Cosmo.
Bonjour. Alors cette semaine, je vous parle de...
Bonjour aussi à nos invités.
Bonjour.
Bonjour
à tout le monde. On se serre les mains et tout ça. Cette semaine, je vous parle de l'incroyable, incroyable vraiment, nouvelle série The Trojan Horse Affair.
La quoi?
L'affaire du cheval de Troie en français. C'est la nouvelle série de podcast de Serial Productions. C'est le studio de production qui est auteur du podcast le plus célèbre de tous les temps, qui a le même nom, Serial, et qui est désormais affilié au New York Times. Et donc dans The Trojan Horse Affair, tout commence en 2014. Un anonyme divulgue à la presse britannique une photocopie de ce qui semble être une lettre secrète envoyée à la mairie de Birmingham, décrivant un complot islamiste pour prendre le contrôle des écoles de la ville. L'opération Cheval de Troie, c'est son petit nom, aurait pour but de remplacer tous les directeurs d'écoles de la ville par des personnes favorables à une éducation islamiste très stricte.
It's about a letter that surfaced in my city and had huge consequences for Britain. This letter launched 4 government investigations, changed our national policy and ended careers. It's hurt some of the country's most vulnerable children. A letter that many people who've seen it agree is ridiculous.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Alors, le document sera révélé plus tard comme étant un faux, mais ce n'a pas empêché une panique de l'extrémisme islamique de se répandre dans tout le pays à cette époque-là. Les politiciens conservateurs qui ont bien profité de l'occasion ont utilisé la lettre comme raison valable pour bloquer à coup d'enquête parlementaire un vrai et sincère mouvement éducatif qui cherchait à aider les communautés d'immigrés à intégrer leur culture dans les programmes scolaires. Et cette période sera aussi, bien évidemment, un terreau fertile pour des politiques antiterroristes beaucoup plus sévères qu'avant, qui ont rendu la vie beaucoup plus difficile aux musulmans vivant au Royaume-Uni. Et malgré tout ce que cette lettre a provoqué, la question de savoir qui l'a écrite et pourquoi est restée sans réponse.
Bon, alors qui a écrit cette lettre ?
Alors, je vous le dirai pas, il faudra écouter le podcast, parce que c'est pas vraiment ça qui m'a intéressé avec ce podcast.
Alors, vous, en fait, dans la vie, vous êtes teaserman, hein,
ouais,
c'est ça?
Exactement. Exactement.
Fait que
c'est
des
un
teasers,
peu, c'est si un peu ça. Ouais. Mais faut vraiment aller l'écouter. Parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est la manière dont cette enquête, au long cours, est racontée. The Trojan Horse Affair, c'est un podcast à deux voix. C'est assez original pour le noter. Les fonctions d'animateur sont partagées entre Brian Reed, un producteur vétéran issu de This American Life, j'en avais parlé en début de saison, et Hamza Syed, qui est un originaire de Birmingham, pardon, et qui est un ancien médecin qui se trouve aussi être musulman. Syed connaissait intimement ce scandale lorsque Reed et lui se sont rencontrés pour la première fois en 2017. Le second était de passage à Birmingham pour une conférence et s'est fait approcher par le premier après l'événement.
A doctor came to see me for a second opinion. One night in fall 2017, I'm in a theater in Birmingham. After my podcast S-Town came out, I went around doing some Q&As. Afterwards, people will sometimes come backstage to chat. And so this guy comes in, introduces himself as Hamza Syed. He said he was changing careers to become a reporter. He was beginning a master's program in investigative journalism the next day, actually. And he wanted some advice. He was speaking fast, like I might walk away at any moment.
To be fair, I was told that I had 5 minutes with Brian Reed, after which I'd be escorted out the building.
Voilà. Et donc, comme vous l'entendez, là, les voix des deux narrateurs s'entremêlent et racontent l'histoire du point de vue de chacun d'eux. On se trouve un peu comme dans un film d'Akira Kurosawa, un peu. En podcast, non, c'est pas complètement la même chose. Et, en fait, le podcast arrive vraiment à nous inclure dans l'enquête comme si on y était, comme si on était dans les pensées des deux protagonistes tout le temps. On ressent avec eux le choc de la découverte d'un nouveau document, d'une nouvelle piste, d'un nouveau nom à chaque fois. Et ce format permet vraiment à la série de rester compréhensible malgré ses 8 épisodes de presque une heure chacun et la relative complexité des personnages et situations auxquels on est exposé tout au long du podcast.
Et comment fait-on pour ne pas se perdre là-dedans ?
Bien, en fait, le fil rouge de l'émission, c'est qui nous permet de nous y retrouver, c'est qu'on est vraiment investi émotionnellement avec les narrateurs. D'un côté, on a Hamza, qui est un local qui veut changer les consciences et la perception de cet événement. Et de l'autre, Brian, qui est un peu extérieur à tout ça, qui veut simplement raconter une bonne histoire, faire un bon podcast. Et cette différence entre eux, c'est vraiment le fil rouge du podcast qui va nous suivre tout au long.
Part of the documentary takes place in Tahir's neighborhood in Birmingham, called Alum Rock, on the east side of the city. It's one of the poorest areas in England, and is majority Pakistani and Muslim. If you're not from Birmingham, and you're not brown, you may have heard that Alum Rock is a great place to find a terrorist. If you're not from Birmingham and you are brown, you'll have heard Alum Rock is a great place to find a wedding dress.
Voilà, dans cet extrait, Hamza explique à Brian la réputation du quartier d'Alum Rock à Birmingham qui est au cœur de l'histoire. Si vous n'êtes pas de Birmingham et que vous n'êtes pas racisé, vous aurez peut-être entendu dire qu'Alum Rock est un endroit idéal pour trouver un terroriste. Et si vous êtes de Birmingham et que vous êtes racisé, vous aurez entendu qu'Alum Rock est un endroit idéal pour trouver une robe de mariée. Et en fait, à travers cet exemple, on touche vraiment à un thème central de ce podcast. Est-ce qu'on doit être vraiment objectif en abordant les questions de racisme d'un point de vue journalistique? Ou est-ce que les journalistes doivent se comporter comme s'ils étaient isolés des conséquences de leur reportage?
C'est intéressant d'avoir une conclusion sérieuse venant d'un mec en slip. Merci. Oui. Merci beaucoup, Cosmo Flash.
Il est déjà reparti.
Ah bah, peut-être que je l'ai vexé, non, avec son histoire de slip.
Oh, adieu, Cosmo ! Adieu !
Il dit même pas au revoir. John Matrix.
Cette nouvelle tenue de Puma, moi, je trouve ça lui va bien. Hein.
Barracuda, ce sera à votre tour de nous conseiller un podcast dans un instant, juste après un morceau des sœurs du groupe IBI, et un morceau qui s'appelle naturellement Sisters to Sisters.
Start new. Our love lost in the forest, burning inside of you.
seems painful. I'm sorry I've hurt you. Slow down, now we've grown. It's all new.
Sisters to Sisters, IBI sur France Inter dans ce nouveau numéro de Papa Podcast. Barracuda, John Matrix, vous allez animer la séquence qui suit. Elle s'appelle le podcast que l'on conseille à un ami. Vous avez la ref? Moi non plus, je sais juste qu'il y a juste un vague lien avec le coup de fil à un ami de Jean-Pierre Foucault. Est-ce qu'il en faut plus pour déclencher un jingle de qualité? Je ne pense pas. Et voilà, nous vous avons donc demandé de choisir deux podcasts, mais nous n'en avons retenu qu'un seul, je sais, c'est injuste. Le podcast en question, c'est celui recommandé par Julien, et c'est Super Ciné Battle. Super Ciné Battle, qu'est-ce que c'est ? Explication.
Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez notre épisode 155, et de l'autre côté du multiverse du podcast, j'ai Stéphane Boulet, dit le Rami Malek. Le Rami Malek.
Alors je suis content que tu l'aies foiré, parce que là c'était vraiment très vexant.
Rami Malek. Non mais je vais le refaire. Le Rami Malek.
C'est du podcast. Au montage, tu vas reprendre des syllabes et tu vas les réassembler, ça va faire le Rami Malek.
Mais tu sais pourquoi? Parce que je dis toujours Rémi. J'ai toujours dit Rémi, je sais pas pourquoi.
Parce qu'il te fait penser au rat de Ratatouille, c'est pour ça.
T'es dégueulasse.
Oui, il jouait bien lui, c'est vrai.
Julien Gauthier, pourquoi nous conseillez-vous ce podcast, s'il vous plaît?
Alors, c'est un podcast donc qui, comme il l'indiquait, classe par décennie les films du meilleur au moins bon. Et qui est un podcast très érudit en fait, qui est toujours passionnant parce que les animateurs vont passer parfois plusieurs dizaines de minutes sur chaque film pour le remettre profondément dans son contexte, expliquer aussi bien toutes ses qualités que tous ses défauts. Les animateurs sont deux grands cinéphiles qui ont une culture qui dépasse largement la mienne. Et donc on apprend toujours quelque chose d'intéressant, et aussi bien finalement sur des films très connus que sur des films beaucoup plus obscurs, bons ou mauvais, dont on n'avait pas entendu parler avant et qui donnent envie après de les découvrir.
C'est un choix que vous validez, Martin ?
Oui, je valide totalement. En fait, quand vous m'aviez demandé une recommandation, il se trouve que j'ai plein de copains et de copines qui font des podcasts, et je me sentais mal à l'aise d'en choisir un et pas les autres. Mais je valide totalement, et il se trouve que c'est deux copains, et je leur dis bonjour.
Daniel Andreev
et Stéphane Boulet.
Voilà. Et nous leur disons bonjour. Merci Martin Gamara, merci Julien Gauthier, merci John Matrix, merci Barracuda, merci à tous. Hein, Nanarland, le podcast, c'est à découvrir sur toutes les plateformes, et c'est évidemment recommandé par Popo Podcast. Merci Charline.
Merci à vous.
À lundi, et merci à toute l'équipe de Popo Pop et à Arnaud Caillet qui était à la technique aujourd'hui.